Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, ravi évidemment d'avoir que cette charge m'ait été donnée de la part de François Borde, qu'on salue bien évidemment. Du coup, nous sommes ici en fait pour un double événement ce soir, double événement logique, à la fois une naissance et un anniversaire. Ça va souvent de pair. Donc, tout d'abord, cette naissance, donc les nouveaux cahiers Castoriadis, dont on aura une présentation. Substantielle à la fois de ce premier sommaire et de la Genèse. Puis nous aurons le droit à un échange avec Quentin au sujet des nouvelles perspectives de recherche autour de l'œuvre de Castoriadis. Et on clôturera du coup cette soirée avec un dialogue que je débuterai, mais qui sera évidemment ouvert à tout le monde. Avec du coup Dick Howard qui nous fait l'amitié de sa présence ce soir et que l'on remercie. Alors du coup, sans plus tarder, je vais laisser la parole du coup à Florence Just des Prairies. Donc je vous présente rapidement. Donc psychosociologue, professeur émérite donc de psychologie sociale et clinique à l'université Paris Diderot, avec une thèse de doctorat soutenue en 1986. Qui avait trait à l'imaginaire collectif et qui, depuis, a noué un dialogue au long cours avec la pensée de Castoriadis. Donc, au-delà de vos charges diverses, scientifiques et administratives, donc on vous doit une œuvre importante, notamment du point de vue d'études de cas sur, par exemple, l'institution scolaire. Et on peut noter, du coup, que vous êtes également poétesse. Et pour dialoguer avec vous, donc Stéphane Wiber, qui est donc du coup doctorant de l'EHESS, donc qui connaît probablement bien ses locaux en anthropologie sociale et qui a beaucoup travaillé notamment sur Louis Dumont, la tradition sociologique, anthropologique française, et qui est lui aussi dans une œuvre en dialogue constante avec Castoriadis, Descombes et d'autres. Donc je leur laisse tout de suite la parole pour nous présenter du coup ces nouveaux cahiers Castoriadis qui viennent de paraître chez Classique Garnier.
Bonjour tout le monde. Donc je vais laisser Stéphane présenter les cahiers, peut-être dire la satisfaction pour moi de voir qu'on ait pu avoir cette collection donc, qu'on va présenter, parce que ce qui caractérise les Castoriadiens, appelons-les comme ça, c'est une tribu. Ce qui caractérise les Castoriadiens, et Castoriadis lui-même le premier, bien sûr, c'est justement de ne pas être des académiciens, c'est de ne pas absolument être dans les reconnaissances académiques. Et que ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs qui sont assez invisibilisés, mais qui sont des vrais chercheurs, parce que la recherche, ça correspond vraiment à quelque chose pour eux, et qu'on n'a pas particulièrement fait une carrière universitaire, etc. Et ça m'avait frappé une fois où j'avais fait un numéro de revue sur Castoriadis, et tous ceux qui écrivaient dans la revue, au bout d'un moment, quand on a édité la revue, l'éditeur disait « il faudrait quand même que tous les auteurs marquent leur titre ». Et puis tous les auteurs disaient mais non, mais moi j'ai pas de titre à mettre, etc. Donc on voit pas ça, vous voyez, c'est pas ordinaire. Et donc qui suis à l'université, je trouve ça très très rafraîchissant d'avoir affaire à des chercheurs qui ont pas besoin de l'université pour être chercheurs et pour faire leurs recherches, bien qu'on puisse avoir besoin de l'université par ailleurs. Et donc par rapport au nouveau cahier, c'était vraiment de se poser la question, mais ça serait bien d'avoir un support, ça serait bien de peut-être d'avoir une collection. On avait des choses à éditer, on avait fait ce colloque sur l'anniversaire du centenaire de Castoriadis. Alors on avait un éditeur, mais il voulait, puis après il voulait plus, puis etc. Et finalement, donc Stéphane racontera cette dimension un peu magique finalement de cet éditeur qui est un éditeur justement plutôt académique, on pourrait dire. Et ce qui a été vraiment intéressant, c'est de voir combien le fait de faire une revue, on a pu avoir une visibilité de tous ces gens qui travaillent à l'international, qui travaillent partout, qui sont motivés, qui sont engagés, etc. Et donc, moi, c'est vraiment une réjouissance. Enfin, ça nous a beaucoup stimulés. de voir à quel point il y avait du répondant, à quel point il y avait une demande, à quel point il y avait... Donc les gens continuaient à travailler, puis ben, s'ils éditaient pas, ils éditaient pas, c'était pas le problème. Ben là, vraiment, maintenant, on peut éditer les Castoriadiens. C'est quand même une grande nouvelle. Voilà, pour voir ce que je peux dire pour commencer.
Merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup, Florence. Oui, peut-être quelques mots au sujet de la genèse de ce travail et puis de ce qui, pour l'instant, s'apparente à une grande réussite pour la possibilité d'échanger ensemble. En fait, François Dos, dans sa biographie de Castoriadis, soulignait une chose qui n'était pas évidente à l'origine, mais dont on peut prendre conscience en lisant, c'est que la trajectoire de Castoriadis, qui est restée longtemps marginale, comme tous les gens le savent, en partie à cause de cette magnifique ambition pluridisciplinaire, de cette trajectoire personnelle vraiment incroyable, et puis dans un milieu où il était à la fois professionnel la journée, militant durant la nuit, etc., une reconnaissance très tardive, malgré son charisme, je dirais, malgré le fait que dans les cercles où il évoluait, il était reconnu comme un personnage magnifique, stimulant, avec une énergie débordante toujours. Et donc, malgré cela, la reconnaissance, je dirais même pas universitaire, parce que l'École des hautes études a eu elle-même une position très singulière dans l'enseignement français, mais je veux dire, c'est la reconnaissance intellectuelle et académique de ses pairs qui, petit à petit, évidemment, à partir de socialisme ou barbarie, s'est étendue, ses connaissances, etc. Mais elle était tardive et puis elle a toujours été un petit peu grevée par ce fait qu'il ne s'inscrivait, après tout, dans aucune discipline spécialisée. Et ça, malgré les appels constants, les incantations à l'interdisciplinarité ou à la multidisciplinarité, on sait très bien que l'évolution de ces 50 dernières années s'est faite en direction d'une spécialisation, voire d'une hyper-spécialisation qui interdit finalement les dialogues entre les chercheurs issus de domaines très différents. Et François Dos notait que l'évolution personnelle et intellectuelle de Castoriadis avait trouvé une sorte de répondant, une sorte de reflet dans la trajectoire des gens qui s'intéressaient à Castoriadis. Et pour reprendre ce que Florence disait tout à l'heure, le fait que les principaux chercheurs qui travaillaient sur Castoriadis, qui y trouvaient nombre d'intuitions, de projets, d'interrogations, eh bien, se trouvaient en dehors de l'université, en réalité. Et donc, ça a contribué à construire une constellation, une galaxie de gens qui étaient un petit peu éparpillés, un petit peu marginaux. Et il faut dire à cet égard que la première réussite est liée à non pas au nouveau cahier Castoriadis, mais au cahier Castoriadis, puisque à la suite d'une rencontre, puisque divers événements étaient organisés, mais à la suite d'une rencontre à Bruxelles au milieu des années 2000 entre un professeur de lycée, dont je vais ici souligner le mérite, Philippe Caumière, qui est reconnu dans le monde francophone comme un des plus grands experts de Castoriadis. Il est allé rencontrer à Bruxelles des gens qui organisaient une journée sur Castoriadis, Laurent Van End et Sophie Klimis, que je veux aussi saluer, bien entendu. Et ils ont commencé à organiser ce qu'ils ont appelé les journées Castoriadis à partir de 2006. Et également à construire, donc à proposer les cahiers Castoriadis qui étaient en quelque sorte la possibilité de diffuser les interventions, tout d'abord les conférences, puis en contactant d'autres personnes, des textes sur Castoriadis. Ça nous donne encore aujourd'hui 8 numéros qui sont d'une qualité exceptionnelle, toujours d'actualité sur divers thèmes comme bien évidemment l'imaginaire, la création, la question de l'universel, etc., la psyché. Et grâce à cette initiative, des gens comme Florence sont arrivés, et puis bien d'autres qui ont été intéressés par cette formule. Moi-même, dans les deux dernières années, j'ai pu rejoindre ce projet. Et donc, ça a pu créer les prémices d'un premier groupe qui, petit à petit, se connaissait, pouvait se disputer, parce que c'est très important, la disputatio chez les Castoriadiens, c'est-à-dire ne pas avoir la même vision, ne pas avoir les mêmes projets et s'interroger tout le temps, en quelque sorte, rester fidèle à cette interrogation permanente que Castoriadis lui-même considère comme le fondement de l'autonomie dans son œuvre. Et donc, les choses étant ce qu'elles sont, en 2013, malheureusement, les cahiers Castoriadis ont dû cesser leur publication et les journées Castoriadis, malgré des tentatives d'internationaliser les rencontres, puisqu'on est allé en Autriche, on est allé en France, évidemment, et malgré cela, petit à petit, ce projet a dû cesser. Donc pendant une dizaine d'années, on pourrait dire que la flamme des recherches castoriadiennes est restée autour de l'association Castoriadis, avec Zoé Castoriadis, dont je vais ici bien évidemment souligner l'œuvre et la constance à essayer d'animer autour de l'association, bien entendu, des projets, des recherches, etc., malgré de maigres moyens, etc. Et donc l'association Castoriadis a permis de maintenir le flambeau. Et puis, on continue à se rencontrer, on s'était connus. Et donc, évidemment, après un projet avec des jeunes chercheurs qui arrivaient, qui essayaient donc, Quentin Mur, Rodriguez, qui va prendre la parole tout à l'heure, à partir d'un grand colloque à Toulouse, voici 2 ans, quand même, la nécessité à nouveau s'est imposée de trouver un support pour des gens dont on voyait qu'ils étaient isolés, qu'ils travaillaient dans leur coin, parce que la pensée de Castoriadis n'a jamais cessé d'intéresser, d'attirer des gens qui pouvaient venir de philosophie, de sciences politiques, de sociologie, d'histoire, etc. Et la possibilité d'essayer de trouver un espace institutionnel de discussion, mais aussi pour fonder de nouveaux projets, pour animer des colloques, animer des journées d'études, s'est imposée à nous, avec cette chance que, comme le disait Florence, que la réussite, c'est de trouver un éditeur qui nous fasse confiance. Et donc, on veut bien entendu remercier Garnier pour cette confiance, parce que ça donne l'objet que vous avez devant vous aujourd'hui. Il y a aussi, bien entendu, une version numérique de ce travail. Et en nous faisant confiance, Garnier nous a permis aussi de fonder, évidemment, un comité de direction, un comité de rédaction, des correspondants internationaux, un comité scientifique avec des grands noms, Vincent Descombes, Bruno Carcenti, Hans Joas, et j'en oublie bien entendu, une quinzaine de noms très importants qui nous ont offert leur soutien et leur confiance également. Et à partir de là, nous avions tellement attendu, en quelque sorte, que nous avons déjà des nouveaux cahiers Castoriadis pour les 3 ou 4 prochaines années dans leur contenu, avec ce qui est très réconfortant pour nous, parce que Florence disait, en réalité, elle avait fait sa thèse sur Castoriadis, mais à l'université, moi qui suis professeur à Ottawa au Canada, quand je me suis fait engager, bien entendu, ce n'était pas du tout par rapport à mon intérêt pour Castoriadis. Et donc, petit à petit, on peut espérer que, et ça s'est constaté lors de ce colloque il y a 2 ans, et de plus en plus, grâce à vous, beaucoup sont là aujourd'hui, qu'il y a une sorte de transmission qui peut à nouveau se faire, par-delà les difficultés de ces 10 années un petit peu périlleuses, mais une transmission parce que notre génération rencontre enfin beaucoup de jeunes personnes, de jeunes gens qui viennent, encore une fois, non seulement de toutes les disciplines, mais aussi de tous les pays. Et ça, c'est très impressionnant, c'est très réconfortant de voir que dans la situation de notre monde, de nos démocraties, de nos oligarchies libérales, du contexte actuel sur lequel je ne veux pas m'étendre, il y a encore beaucoup, beaucoup, et j'espère de plus en plus, de personnes qui trouvent en Castoriadis, non seulement, je ne dirais même pas des réponses, mais en tout cas des questionnements qui les poussent à s'investir à la fois dans la théorie, et bien entendu, c'était très important pour Castoriadis, ne jamais séparer la théorie et la pratique, donc qui aussi réfléchissent pour inventer de nouvelles formes d'activité et d'engagement. Je disais que c'était réconfortant pour nous, parce qu'en fait, petit à petit, nous nous rendons compte que des dizaines et des dizaines de chercheurs, en dehors de l'académie parfois, ou dans l'académie, mais aussi un peu marginaux par leur situation, parce que le contexte actuel fait aussi qu'il y a de grandes difficultés pour les jeunes chercheurs. Et donc c'était l'idée, c'était d'offrir enfin un espace de publication où leurs écrits sur Castoriadis seraient les bienvenus immédiatement, au moins a priori. Et comme ça n'a pas été souvent le cas dans de nombreuses revues qui renvoyaient des écrits sur Castoriadis, soit ben, on n'est pas sociologue, soit on n'est pas anthropologue, on n'est pas économiste, on n'est pas historien, etc. Et ça, comme je disais, c'était et encore moins philosophe. Et donc, au moins, là, ils auront l'impression qu'ils pourront publier, ils recevront des commentaires, des lectures de gens pour qui ça a été très important. Et donc, le plus important, je dirais, pour finir, je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est de constituer un espace de dialogue, un espace de rencontre, un espace d'échange, un espace de controverse. Et dans un monde où les dogmatismes, que souvent au nom du bien, l'emporte de plus en plus fréquemment, bah, restaurer justement un petit peu de conflictualité ou de dissensus, mais dans la confiance et dans le respect, dans la considération du fait que Castor et Addis savaient très bien qu'ils posaient beaucoup plus de réponses et beaucoup plus de questions, pardon, et les questions les plus fondamentales. Et les questions les plus fondamentales, on ne les résout pas, mais déjà élucider le fait qu'on ne peut pas les résoudre est déjà une grande chance et en tout cas une trajectoire qui est très importante pour nos existences à la fois intellectuelles et personnelles. Alors j'espère qu'à partir de ce numéro et des numéros qui s'en viennent, on prépare bien sûr le numéro 2 qui devrait sortir à l'automne. Et donc évidemment, je lancerai un appel à toutes les énergies, à toutes les bonnes volontés pour s'investir dans la lecture, la réflexion, l'écriture, très important, et faire publier leurs textes et faire publier leurs idées. Et aussi de travailler aussi bien entendu à l'engagement et tout ça, je pense qu'à partir non seulement de la revue, mais d'une collection qu'on est en train de monter, qui devrait s'ouvrir à la fin de l'année au bord de l'eau, une collection sur Castor et Addis qui s'appellera Domaine du Pensable. Et bien à partir de là, et de journées, et de colloques et de rendez-vous comme ici, en remerciant notre revue, et bien ça générera une nouvelle dynamique autour des études castoriadiennes. Je veux ici aussi, juste pour finir, citer le nom des personnes qui ne peuvent pas être là, mais qui font partie vraiment, qui ont abattu un travail formidable pour ce numéro 1. J'ai déjà évoqué Philippe Comière, mais je vais évoquer bien entendu Olivier Fressard, qui lui-même depuis très longtemps a fait partie des premiers castoriadis aussi, a toujours été une présence très importante au sein du groupe. Des jeunes qui nous ont rejoints, comme Thibaut Tranchant, qui est à Montréal, qui fait partie aussi du comité de direction, Nicolas Piquet, qui est professeur à Grenoble et qui participe à cette aventure. Et donc, ça fait 7 personnes avec Quentin et Florence qui font partie donc de cette initiative. Est-ce que j'en ai oublié une ? Non ? Nicolas, Thibault, Olivier et voilà. Et moi. Ah oui, d'accord. Non, mais on est trop. Je pense que j'ai oublié quelqu'un. Voilà, donc je vais céder la parole à Émile, je suis sûr que j'ai oublié quelqu'un, et qui va la donner à Quentin, je pense.
Merci beaucoup. Donc, du coup, merci pour ce point sur cette naissance, plus exactement du coup cette renaissance. Et du coup, j'avais annoncé que c'était ça trouvait un écho dans le cadre d'un anniversaire, puisque nous fêtons cette année du coup le cinquantenaire de la parution de l'Institution imaginaire de la société, donc ouvrage tout à fait crucial de Castor et Addis. Et au sein de tous les événements scientifiques qui s'y trouvent polarisés, je vais du coup céder la parole à Quentin Murodriguez pour nous présenter quelles sont les grandes pistes, en tout cas quelques grandes pistes de réflexion qui se dessinent à partir de l'œuvre de Castor et Addis. Et avant de céder la parole, je me permets de te présenter quand même. Donc, Quentin Murodriguez, donc doctorant en philosophie entre Toulouse et Ottawa, une dimension transatlantique, et qui travaille notamment du coup sur l'aliénation dans la théorie, dans le projet castoriadien, et qui a beaucoup travaillé sur les archives de l'IMEC. Ce qui fait écho à ce qu'on évoquait tout à l'heure, et notamment sur les inédits. Donc, je te cède la parole.
Merci Émile. Merci Intro Revue pour cette possibilité de s'exprimer, d'avoir un cadre comme celui-ci pour échanger, présenter évidemment notre travail avec les nouveaux cahiers Castor et Addis. Alors c'est un peu une pression pour moi d'avoir la charge d'expliquer ce qui se fait, des perspectives, parce que moi, je suis tout jeune d'une part, et je ne pense pas être la seule figure. Il y a tout un renouveau, toute une jeunesse de jeunes castoriadiennes, la jeune garde, si j'ose dire, qui illustre les nouvelles perspectives, les nouvelles réflexions profondes que laisse entrevoir l'étude de cette pensée. Je vais d'abord évidemment évoquer la question des archives qui ont été un changement majeur dans la manière évidemment d'aborder l'œuvre et de travailler l'œuvre pour nous autres jeunes chercheurs, puisque la première génération n'avait pas accès à ce trésor-là, et que le travail archivistique qu'ont fait les archivistes de l'IMEC est absolument fantastique sur beaucoup d'aspects et nous permet de travailler dans ce lieu absolument génial qu'Émile connaît et de nombreux d'entre vous connaissent sans doute qu'est l'IMEC et l'Abbaye d'Ardennes. rapidement, c'est à la fin des années 2010 que le fonds Castoriadis est arrivé à l'IMEC et qui nous a permis de travailler sur évidemment l'ensemble des brouillons, l'ensemble de manuscrits parfois, et évidemment surtout sur un ensemble de notes de travail qui permettent d'éclairer parfois des moments de doute de Castoriadis, parce que Castoriadis doutait, c'est précieux, il faut le rappeler, qu'un intellectuel doute toujours. Et ça nous permet évidemment de voir la trajectoire, les hésitations de sa pensée. Donc ça a été, avec ces archives, avec la mise à disponibilité de ces archives, tout un nouveau pan de la recherche qui s'est ouverte. Et il faut ici saluer, et j'insiste, le travail, mais aussi l'autorisation de Zoé, Cybel, Sparta, qui continue, nous permettent de travailler dans de très bonnes conditions et avec une facilité derrière sur les archives, et qui, évidemment, nous permettent d'entretenir cet esprit, l'esprit castoriadien, si je peux dire, qui va avec. Donc voilà pour les archives, c'est un endroit absolument fondamental et qui permet d'éclairer de nouvelles pistes. J'ouvrirai pas tous les dossiers, puisque on a deux jours de colloque actuellement pour discuter de tout ça. J'ouvrirai rapidement sur les thèmes fondamentaux, la question qui a été abordée dès aujourd'hui dans la journée d'études, la journée du colloque, de l'étayage, du rapport à la nature, les questions d'écologie politique, et plus largement, qui est plutôt mon sujet de thèse, le rapport à l'autonomie et à l'hétéronomie, qui sont des thèmes fondamentaux pour de nombreux auteurs de cette époque, et donc évidemment sur la possibilité toujours pour notre société, pour nos autres contemporains, de penser ce qu'est la politique, le social, qui sont des thèmes qui sont toujours à travailler et toujours à réfléchir. Donc voilà pour ce qu'il en est des archives de Castoriadis. J'aborderai très rapidement ce qu'étaient les jeunes castoriadiens avant cette revue. C'est une situation qu'il faut évoquer, parce que pendant longtemps, ça a été très dur de faire des thèses sur Castoriadis en France. Évidemment, de trouver une direction de thèse. Florence a parlé de la situation institutionnelle des castoriadiens, qui a été épineuse, qui continue à être épineuse sur beaucoup d'aspects, mais depuis peu, toute une génération de jeunes, dont je me mets là-dedans aussi, dans les jeunes, ont commencé à faire des thèses sur Castoriadis, ont recommencé à faire des thèses sur Castoriadis. Et je crois que le pari et la réussite déjà de ce premier numéro, et puis plus largement des nouveaux cahiers Castoriadis, a été de réunir ces jeunes dans un espace, dans l'espace de la revue et dans le monde de la revue. Je pense que Dick Howard parlera de l'importance des revues aussi pour réfléchir sur ce qu'est le débat d'idées, qui est encore précieux de nos jours. Donc toute une nouvelle génération a trouvé un espace de socialité aussi, il faut le dire, s'est retrouvée ensemble pour traiter de ce thème, ce qui fait que le doctorat a évidemment une autre saveur, et ce qui permet, je pense, d'apporter un peu de réconfort, de baume au cœur, et surtout un peu de jovialité dans nos thèses respectives. Et ça, c'est absolument précieux, il faut souligner évidemment là-dessus l'importance du monde de la revue là-dessus. Je finirai sur un dernier point, qui est évidemment l'internationalisation de la pensée de Castoriadis. On revient tout juste de Strasbourg, où il y avait un colloque dessus. Bon, Strasbourg, ça reste la France, même si l'Alsace, on a quelques doutes. Historiquement, c'est compliqué. Mais bon, Strasbourg, d'une part, mais évidemment, là, à la fin du mois, Madrid, une journée se tient à Madrid sur la pensée de Castoriadis, avec l'ensemble des penseurs hispanophones à Madrid. Et puis, au Mexique, se tient, à partir de mai, un colloque sur Castoriadis pour les 50 ans de l'institution imaginaire de la société. C'est pour montrer l'intérêt aussi international, pas seulement francophone, mais je pense que c'est une pensée qui résonne pour beaucoup sur les thèmes que Castoriadis a abordés, a voulu embrasser. Parfois effrayant au départ, il faut le dire, pour des jeunes castoriadiens, mais qui, après une étude, une longue, trop longue peut-être, étude pour certains, permet d'apprécier les enjeux contemporains à leur juste valeur et surtout dans toute leur complexité. Donc je pense que pour nous autres, jeunes castoriadiens, si je puis dire, les perspectives à venir peuvent réjouir, surtout qu'une collection Domaine du pensable, Stéphane là évoqué va être créé avec évidemment tout un travail de republication d'inédits lié avec les archives Castoriadis et évidemment avec Zoé Sibel-Sparta derrière qui nous appuie et on les remercie grandement pour ça et qui nous permettent à nous autres, jeunes Castoriadiens évidemment, de faire vivre une œuvre parce que sans ça, on ne serait pas grand-chose. Donc voilà, et merci à notre revue évidemment de donner un espace qui nous permet de discuter tout ça et je suis sûr qu'on aura encore beaucoup de choses à dire parce que dans les archives Castoriadis, il y avait notamment des lettres de Dick Howard, donc je suis sûr qu'on pourra parler de ces lettres à 1974 en plus. Ah, mais c'est justement, ce sera une question, donc je garde les questions pour après. Et merci en tout cas à vous d'être présents. Peut-être qu'on ne vous voit pas, mais vous êtes nombreux, nombreuses. Donc merci, merci pour ça et merci entre revues pour l'accueil.
Merci Quentin. Du coup, nous allons passer à notre dernier temps de cette soirée, non des moindres. Donc un dialogue que je vais modestement initier avec Dick Howard, mais qu'on ouvrira le plus vite possible, évidemment, au reste de la salle, pour présenter très rapidement Dick Howard, du coup, professeur émérite de philosophie à l'université Stony Brook de l'État de New York, donc un doctorat déjà lui-même transnational, puisque mené depuis le Texas, mais qui a frayé avec le Nanterre près 68, Eric Koerr, avant de partir dans un espace germanique, d'en rencontrer Habermas, entre autres, donc une pensée déjà à une échelle globale, globalisante, on va dire. Du coup, vous avez connu intimement, on peut le dire, et sur la longue durée Castoriadis, mais également Le Fort et ces cercles de sociabilité à partir des années 70. Et on vous doit, parmi une très longue bibliographie que je ne pourrais pas énumérer ici, mais donc du coup toute une série d'ouvrages, notamment sur la pensée politique, sur le long cours hein, en général, de ses racines grecques jusqu'aux révolutions atlantiques notamment. Et on peut pointer aussi, ça rejoint ce que disait Quentin, que vous êtes aussi un grand homme de revue anglo-saxonne, mais aussi française, puisque vous tenez encore aujourd'hui une chronique dans la revue Esprit, dont il a été sujet tout à l'heure au colloque. Et donc, du coup, vous êtes aussi un passeur de la pensée de Castoriadis par-delà l'Atlantique. Alors, pour commencer cette série de questions, peut-être pourriez-vous revenir sur votre rencontre avec Castoriadis et peut-être le contexte du coup de cette rencontre, donc contexte intellectuel, amical, qui vous a fait du coup frayer avec lui jusqu'à la fin des années 90.
C'est une longue histoire, merci. Ça marche pas ? Bon, oh là là. Mais ça n'a pas de bon goût. Pourrais pas mettre la glace ou quelque chose de plus utile. Toujours est-il que, bon, d'une certaine manière, j'ai été militant bien longtemps avant de connaître la pensée politique française, etc. Je faisais partie du mouvement des droits civiques aux États-Unis ainsi que du mouvement anti-Vietnam. Et du coup, de fil en aiguille, d'une part, il me semblait que c'était la France où l'on trouverait ce qui manquait aux États-Unis, à savoir une pensée politique. Donc, je faisais des demandes pour trouver une bourse. Et donc, je me trouvais en 66, boursier Fulbright, et un peu fauché au début. Et je dis ça pour une raison, parce que je me croyais militant, je me croyais porteur d'un avenir qui chante, peut-être, qui chanterait. Et voilà que je vais à la réunion de la fête de l'humanité, qui est au début septembre, tous les ans, depuis lors et depuis bien avant. J'y vais, je n'ai pas d'argent, je propose, bon, ben, je suis quand même un militant comme vous, n'est-ce pas ? Faudrait quand même laisser passer et qu'on, justement, le mot passeur, qu'on, bon, et voilà que non, etc. Et bon, premier coup sur l'idée du communisme. Deuxième coup, d'une certaine manière, s'en suivait. Je rencontre quelques Américains, d'ailleurs, dans le mouvement anti-Vietnam, qui s'acoquinaient un peu avec les trotskistes. Alors, ils me convainquent d'aller chez les trotskistes. J'y vais. Je ne sais pas s'ils font toujours ce rituel, mais il faut qu'on s'invente un pseudo et qu'on s'identifie. Et une sorte de religion, enfin, pour ainsi dire. Du coup, très vite, fini avec le trotskisme. Alors, curieusement, où est-ce que je vais aboutir, comme Émile le disait, je vais aboutir à Esprit. Esprit, moi, je ne suis pas catholique, je ne suis pas religieux. Qu'est-ce qui m'attire là? Bon, ça, c'est une longue question, mais je le mentionne parce que, de fil en aiguille, je vais trouver aussi, parmi des amis à Esprit, Castoriadis, Lefort et quelques autres qui sont de cet acabit. Alors, ça veut dire quoi? Finalement, ça veut dire que il faudrait arriver à articuler la distinction entre, en anglais ça se dit mieux, entre criticism et critique, entre une sorte d'extériorité et une intériorité. Et du coup, ça va amener, par exemple, à découvrir ou redécouvrir ou inventer la phénoménologie. Et cette phénoménologie, au début, je l'avais connue aux États-Unis, et j'ai connu aux États-Unis parce que les départements de philosophie là-bas, à cette époque, nous sommes en 65, hein, à cette époque, la philosophie, c'est la philosophie analytique, c'est asocial, sinon anti-social. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on choisit autre chose. Ça pourrait être la phénoménologie, je vais y aboutir, mais entre-temps, ça voulait dire aussi le marxisme, parce qu'en 1965, il n'y avait pas de traduction des écrits de jeunesse de Marx. Ce qu'il y avait, c'était, on avait toujours ça en édition Progrès de Moscou. Il n'y avait pas aux États-Unis. Et du coup, on s'est mis, et là j'aborde la naissance d'une revue. Et le pourquoi de revue, en me posant la question, est-ce que ça peut avoir des leçons pour vous? Parce qu'en effet, ça nous amène à Telos, dont j'étais parmi les premiers. Et aussi parmi les premiers à quitter. Mais je ne sais pas si on s'arrête d'abord avant, sur ce que j'ai dit jusqu'ici. Je ne veux pas parler tout le temps.
C'est tout à fait intéressant. Et justement, ça pointe, si je peux me permettre du coup, de rebondir, oui. Sur cette idée que donc, vous évoquiez Telos, donc, une grande revue... qui se lance des gauches critiques, on va dire, américaines, anglo-saxonnes, de manière plus large. Et ça soulève la question, justement, puisque vous mentionniez votre début d'entrée en matière philosophique en Amérique au mi-temps des années 60, ou même plus tardivement. Mais du coup, quelle était potentiellement la connaissance qu'on pouvait avoir de Castoriadis à ce moment? Qu'est-ce qui était disponible? Est-ce que c'était, du coup, les articles traduits de l'anglais, par exemple, par d'autres revues militantes? Parce que c'est un point décisif sur... parce que comment est-ce que vous êtes entré en contact justement avec les écrits de Cassaradis? Est-ce par pur hasard ou vous êtes tombé sur un volume, sur du socialisme ou barbarie sur...
Non, c'est tout à fait dans la logique du parcours du mouvement des droits civiques contre Vietnam ensuite, mise en question du libéralisme à l'américaine, etc. Et en l'occurrence, donc, je fais comme tous les intellectuels, d'une certaine manière, on va faire un livre. Et avec un copain, on décide qu'on va faire un livre. Et le but qu'on suivait, c'était de montrer, comme le titre l'indique, le marxisme post-léniniste. Qu'en est-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Etc. Et là, on avait des chapitres, bon, un peu ce qu'on s'attendrait, Rosa Luxembourg, Gramsci, etc. etc., etc. Entre parenthèses, Rosa Luxembourg, pour moi, c'était aussi quelque chose de très important parce que j'ai fait une édition de ses œuvres. J'ai fait des traductions j'ai pas mal. Je reviendrai parce que ça expliquerait une autre chose. Mais en attendant, donc, on veut faire ce livre, donc, comme je dis, Gramsci, blablabla, tous ceux qui sont connus. Mais on pensait aussi à des gens qui n'étaient pas très connus. C'était de moi que ça venait la plupart. C'était par exemple Lefebvre. C'était, par exemple, les communistes des conseils.
Pankouk.
Exactement. Bingo. et pour la troisième partie, on voulait revenir à la philo et montrer, si on pouvait le faire, comment... la fameuse théorie et praxis n'était pas ce que Lénine nous disait, qu'il fallait avoir une théorie avant de pouvoir entrer dans la pratique, ce qui n'a pas de sens. Parenthèse, d'ailleurs, pour vous qui êtes ici, hier soir, j'allais dans mes rayons, dans l'appartement à Paris, et je tombe sur un livre qui s'appelle... après la théorie critique, qu'est-ce que veut dire la critique théorique de la praxis? Ce livre consiste en 4 chapitres écrits par Louis Althusser. Alors, j'ai lu le premier chapitre hier soir, c'est publié en 60, c'est écrit en 75, donc au moment de notre livre où Castoriadis va faire sa grande rupture. Toujours est-il que on cherchait donc un chapitre à la fin du livre sur socialisme ou barbarie. C'était pas évident. Il se trouve que j'avais acheté une dizaine d'exemplaires que je trouvais ma première année à Paris, rue Cujas, un libraire d'occasion, et qui est toujours là d'ailleurs. Je suis allé il y a 2 ans à cette librairie avec notre petite fille, et c'est merveilleux. Toujours est-il que donc, je connaissais un peu socialisme et barbarie de ce point de vue-là, mais en général, c'était un mythe dans le sens de Sorel, mais ce serait, bon, faudrait le montrer. Toujours est-il que c'était un mythe socialisme barbarie, et donc, je voulais qu'on ait un chapitre. Alors, je commence à demander. Et je connaissais pas mal de monde en passant par Esprit, en passant par telle ou telle mouvance. Je trouve personne. Et puis, je demande à Pierre Vidal-Naquet, que j'avais connus à des manifs contre le... Donc, j'avais connu Villanaquet quand j'ai publié dans Esprit un petit article qui s'appelait « Les intellectuels français et nous ». Et je disais en gros, l'intellectuel français, c'est un pétitionnaire. Il signe des pétitions. Autrefois, c'était pire qu'actuellement. Mais toujours est-il que Villanaquet trouve ça très, très bien. Il contacte la rédaction de l'Esprit pour savoir qui est ce jeune Américain. Et ce jeune Américain, il le rencontre. Et le jeune Américain pose une autre question. Camarade, parce qu'on était tous camarades, hein, toujours tutoyés. J'ai besoin d'un chapitre sur socialisme ou barbarie. Et Villanaquet, que certains de vous connaissent du moins évidemment de nom, il habitait juste par là, 150-200 mètres. Et il dit oui, je vais trouver quelqu'un. Et il me donne le numéro de téléphone de Claude Lefort. Et je téléphone à Claude Lefort, j'explique le programme, le problème. Et Lefort dit, il m'invite chez lui, dans un magnifique appartement qui appartenait à son beau-père. Et je le rencontre, on parle une heure et demie, deux heures. Et puis il explique qu'il ne peut pas écrire parce qu'il est en train de terminer sa thèse. Encore, terminer ta thèse. et donc il me dit de revenir dans 15 jours et il aura quelqu'un. Et donc je reviens dans 15 jours et je rencontre Corneille. C'est là où commençaient les rapports. Et ces rapports ont continué toujours avec les disputes, etc. Et quand je pense à ces rapports, je pense surtout aussi sur un peu à l'imagination chez Corneille qui était poétique, qui était même sa manière de parler, son goût de parler. Et je pensais, hier soir, je pensais à un dîner chez Castoriadis avec Edgar Morin et sa femme, et surtout ces deux-là qui... deux Grecs qui se mettent à parler. Je ne sais pas si tu étais là, Zoé, ou si tu te souviens de ça. C'était dans notre jeunesse, disons. Mais toujours est-il qu'avec Morin et Corneille, c'était assez merveilleux. Bon, alors, ça c'est donc le début du rapport. On peut passer, si l'on veut, maintenant, à qu'est-ce que ça fait pour créer une revue, si on veut, ou si on veut plus de détails.
On peut d'ores et déjà... ouvrir à d'autres questions que les miennes, hein, si d'autres personnes veulent intervenir, proposer des pistes, pas spécialement pour le moment, parce que si on continue sur cette lancée-là, du coup vous avez donc d'abord connu via Socialisme ou Barbarie, donc sur les travaux entre 49 et 65, pour du coup cet ouvrage qui sera publié, si je ne dis pas de bêtises, en 77, non, c'est The Marxian Legacy, non. Et donc, du coup, vous connaissez avant. Et comment est-ce que, du coup, cette autre face, on pourrait dire, de Castoriadis, de l'institution imaginaire, comment vous l'avez perçue en 75? Est-ce que vous l'avez perçue comme un prolongement, du coup, de ces questionnements militants, politiques? Est-ce que ça a été pour vous, la découverte d'un pan proprement philosophique de la pensée de Castoriadis? On sait que les deux sont pas du tout opposables, enfin que Castoriadis a sans cesse philosophé en même temps que fait de la politique et vice versa. Mais du coup, quel était le rapport que vous avez eu au moment où l'institution imaginaire a paru et Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a frappé, si vous avez des souvenirs de 75 encore?
Je crois qu'il y a encore, il y a encore une étape. Parce que il commence à être reconnu et il commence à publier une revue. Ou plus exactement, il pique pour eux-mêmes une revue, enfin, c'est l'expert-là.
Oui, Texture, j'imagine, sur le... qui est revue bruxelloise avec Marc Richir au départ et qui piraté, en tout cas, vous le savez mieux de l'intérieur, mais en tout cas, dont le centre de gravité, c'est à partir de 72, est revenu vers Paris de manière très majoritaire.
Et c'est dans cette revue qu'il se trouve certains des écrits, comment dirais-je, des mi-manuscrits qui sont en route et qui sont suffisamment clairs ou suffisamment provocants, etc. Mais en même temps, commence du coup des tirages, entre dans l'équipe quelqu'un qui reste pour moi un mystère et dont certains d'entre vous connaissent bien les écrits, c'est Gaucher. Quel est le rôle de Gaucher là-dedans? Je n'ai qu'une anecdote à raconter qui en dit long sur beaucoup de choses, peut-être. Je reviens un instant à Telos, d'ailleurs. Nous étions des jeunes, on dirait en anglais, wannabe, des jeunes qui veulent devenir des vrais marxistes, des vrais philosophes marxiennes, si l'on veut. Et j'ai écrit deux textes, l'un sur Castoriadis, l'autre sur Le Fort. Il a fallu 2 ans pour que le comité de cette revue, qui se voulait d'avant-garde, que cette revue accepte l'idée que Marx n'est pas intouchable, d'une certaine manière. Et donc, dans un de ces articles, j'avais mentionné le fait que la femme de Castoriadis était psychanalyste, qui venait de publier un livre sur la violence de la langue. Je ne prenais pas du tout position, je donnais ça comme information, en note, en bas de page. Et je suis revenu à Paris l'année suivante. Il y avait une réunion de je ne sais pas quoi. Je vois Gaucher, j'y vais comme bonne américaine, n'est-ce pas, avec un coup de main. Et j'ai un poisson dans la main. J'ai quelque chose qui cloche. Et j'ai appris que c'était à cette époque qu'ils ont publié une sorte de revue ronéotypée. Je l'avais dans ma...
C'était avant Texture ou après?
C'était en 75. Ça s'appelait... Oui, le numéro dont je parle s'appelait « Quelques lettres d'amour ». Et parmi ceux qui devaient recevoir cette lettre, une de ces lettres, c'était moi. Une autre était adressée à Sartre. Je trouvais ça d'une certaine manière flatteur. C'était le genre de, on m'a expliqué, c'était le genre de terrorisme intellectuel qui est pratiqué et qui semble avoir infiltré ce groupe. Mais d'un autre côté, dans le même groupe, il y avait Avansour qui ouvrait à l'école de Francfort.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez rebondir sur ça? Ah, pardon. Oui, je ne sais pas si le micro est encore parfait.
J'ai pas très bien compris ce que vous vouliez nous dire sur l'énigme gaucher à partir de ces lettres d'amour. Donc j'ai cru comprendre que vous vouliez nous dire quelque chose par rapport à l'édition, par rapport à ça. Mais on n'a pas très bien compris. Donc qu'est-ce qui est énigmatique? Et alors, bon, ce qui me vient, c'est d'un seul coup, ce qui me venait, c'était de dire, c'est vrai que Gaucher, finalement, n'a jamais facilité de l'édition des Castoriadiens, alors même qu'il était vraiment très, très en vue sur le. Voilà, donc peut-être nous en dire un peu plus pour qu'on comprenne.
Qu'est-ce que c'est qu'un comité de rédaction? Est-ce qu'on cherche une unanimité et laquelle? Ou est-ce que cette. Non, je formule autrement. Je reviens sur mon ami communiste là, dont je parlais. Est-ce que le comité de rédaction est une sorte de format de psychanalyse collective, ou est-ce que c'est une question de trouver une vérité et que tout le monde adhère? Nous, on s'est tué là-dessus. On ne pouvait pas accepter certaines limites. Et du coup, de plus en plus vite, certaines qui parlaient le plus fort, qui parlaient le plus fréquemment, se mettaient à dominer. Et du coup, par exemple, on en était entre est-ce qu'on publie du Lyotard, du Castoriadis, du Lefort, du Gortz, du blablabla. Et c'était. Il n'y avait pas une cohérence, il n'y avait pas une manière. Ne peut-on pas penser à ce comité comme ce que devrait être un leadership qui ne soit pas donné de l'extérieur et qu'on puisse faire une revue qui ne prétend pas détenir la vérité, mais qui sait comment s'ouvrir là-dessus. Et c'est là où je vois la différence, par exemple, prenons l'exemple du livre qui nous préoccupe il y a 50 ans. Qu'est-ce qui est arrivé du socialisme ou barbarie, comme collectif, mais certainement comme le produit de Corneille et quelques autres. Donc, avait trouvé une manière de montrer logiquement, directement, que le marxisme était fondé sur une ontologie, disons, sur les présupposés, si l'on veut, qui était en contradiction à ce que on prétendait produire. D'accord. Alors, que faire ensuite? Et là, j'ai l'impression que très vite, on est arrivé à s'épuiser en petitesse, en citation, une pluie de citations C'est quelqu'un qui a lu les revues de cette époque en est familier. Mais je ne sais pas si c'est une...
Puis c'est très intéressant sur ce vers quoi ça pointe, enfin, ça fait signe quand même vers ce moment années 70-80 avec du coup des individualités comme Kassouridis, mais comme Le Fort, comme Lyotard à certains égards, etc., mais qui ont une vraie pratique de la revue et qui, une fois les derniers ancrages marxistes lâchés, tentent du coup d'adapter les nouveaux comités de rédaction de leur revue à cette nouvelle donne théorique. Mais du coup, on voit toute la tension qui existe, parce que du coup, dès qu'on regarde les archives de l'expérience de la revue Texture, ou même dans Libre, par exemple, ce que vous pointez, c'est très intéressant, c'est cette idée de ne pas donner d'orthodoxie dans le comité de rédaction, en disant voilà, maintenant on n'a pas de vérité transcendantale qu'on va essayer de démontrer au fil des numéros, mais ce qui ne garantit pas qu'il n'y ait pas d'immenses conflits internes. Et en fait, il y a une forme de travail sous-jacent. Et c'est vrai qu'on le voit très bien en Texture, quand la revue éclate, il y a cette impensée, qu'est-ce qu'on fait de la révolution ? Et qui n'a pas tellement été réinterrogé en disant, bon, voilà, c'est maintenant une question ouverte sur ses propres contradictions, etc. Et jusqu'au moment où Marc Richir et d'autres commencent à s'écarter trop loin des présupposés de Kassouridis, et on voit que là, il y a quand même une butte, enfin, il y a une limite quand même à cette nouvelle stratégie éditoriale de se dire, ah, voilà, tout est ouvert maintenant, c'est une nouvelle pratique de revue. Et en fait, on voit que ça atteint aussi ses limites assez rapidement dès qu'il s'agit de questions un peu importantes. Et c'est vrai que ce que vous expliquez sur la partie années 70 de ça, c'est à mon avis une période cruciale dans toutes ces revues intellectuelles, politiques, etc., qui sont en pleine recomposition. Et c'est tout à fait passionnant de ce point de vue-là. Est-ce que oui, d'autres personnes veulent poser des questions, interroger Dick Howard, ou d'autres personnes aussi, hein, Florence, Stéphane, ou même si Quentin, tu as d'autres remarques aussi, hein.
On comprend un contexte au moment de socialisme et barbarie où très marxiste, avec des engagements forts, de camarades, etc. Et donc où cette revue finalement est pas seulement acceptée, mais participe du débat, etc. Ce qu'on sent pas bien, c'est le moment où il y a l'institution imaginaire de la société. Est-ce que ça fait rupture ? Alors, est-ce que ce que vous dites sur le fait qu'à partir de là, on ne se posera plus la question du débat, mais on se posera la question qui on édite, est-ce qu'on édite machin ou un tel, comme si finalement c'était plus sur le débat d'idées, mais c'était sur la réputation ou sur peut-être ce qui fera marcher la revue, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on peut resserrer un peu sur l'effet institution imaginaire de la société, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est produit dans le milieu, alors justement, est-ce que ça a été de l'occultation, est-ce que ça a été du déni, est-ce que ça a été... On ne veut pas trop le savoir. Où est-ce que ça fait événement ?
Voilà. D'abord, ça fait événement, certainement, parce que, bon, 75, c'est donc institution imaginaire. Qu'est-ce qui se passe, non seulement en France, mais presque partout ? C'est l'effet Solzhenitsyn, si l'on veut, n'est-ce pas ? Et c'est la mise en question de ce que pourrait être le but d'un mouvement de personnes qui, comme tous ceux dont on parle, et comme moi-même aussi, qui ont fait 68, qui ont expérimenté cette chose. Et d'ailleurs, j'ai jamais regardé de près, mais je pense que pour moi-même, la première fois que j'ai effleuré le mouvement socialiste à Paris, c'était le mouvement que Le Fort, Kassouridis et Morin ont publié sous le titre « La brèche ». Et cette idée d'une brèche est fascinante, parce que cette brèche, bon, ça ouvre, mais ça ne fait pas tomber. Ça ouvre, ça laisse entrer des lumières de façon différente. C'est là où l'imagination commence. Et 68 comment on pouvait pas se l'expliquer. Et même je me souviens d'être à la fin de la manif en, je sais pas quelle année, 60, pendant 68, on se trouvait à Domfer-Rochereau. La place était pleine, les flics se sont fait rares et on ne savait pas que faire. Il y en avait quelques-uns qui disaient bravache à l'Élysée, et d'autres, mais on ne pouvait pas s'imaginer ce qu'on ferait si on avait pris. Et du coup, je pense que ce serait cette idée d'une brèche. Et je pense d'ailleurs que l'idée d'une brèche, il faudrait le thématiser, parce que y a des moments, comment dire, le danger avec une brèche, c'est de penser, il faut foncer, il faut qu'on soit Samson. N'est-ce pas, et qu'on fasse tomber les murs, les piliers du temple, si on tient la brèche ouverte, est-ce que c'est pas si mal? Si finalement la brèche reste ouverte, du coup, c'est là où il y a une invitation à tous d'essayer, de proposer, d'agir sous condition qu'on ne se prenne pas comme ceux qui allaient être des Samson, qui allaient faire tomber les murs. Et c'est peut-être, je ne sais pas si vous voyez ça, mais et je pense que au moment... Allons plus loin, parce que j'étais à Esprit à ce moment-là, et Esprit était la revue supposée catholique par certaines, qui flottait justement sur l'influence de Solidarność, du pape, comment il s'appelait déjà, Jean-Paul, je ne sais pas combien. Et du coup, là, à Esprit, il y avait cette ouverture qui est restée. D'ailleurs, j'avoue que je suis resté dans le groupe d'Esprit depuis toujours. Je suis toujours étonné comment le bâton passe. Et quand quelqu'un cherche à exercer trop le bâton, ça casse. Et pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup de salamés. Mais donc, la brèche, c'est pas un concept à négliger.
Merci pour cette actualité de la pensée de Castoriadis, donc plutôt sur la brèche plus que sur l'institution en tant que telle. Quentin ?
Merci de prendre le temps de nous répondre, déjà, c'est très gentil. Moi, j'avais une question, comme je vous disais précédemment, lors de mon travail aux archives, j'ai eu la chance de tomber sur une de vos lettres par hasard, dans un endroit où, qui n'était pas prévu normalement pour ça, enfin, en tout cas dans un dossier étonnant. Il n'y a rien de top secret ou de gênant, je vous rassure. Mais à la lecture de la lettre, datée de 1974, vous dites à Castoriadis, grosso modo, oui, tu devrais lire l'école de Francfort, les théoriciens de l'école de Francfort, parce qu'il n'y a pas que des conneries. Bon, vous ne dites pas ça, votre français est meilleur que ça, évidemment, j'emploie mes termes. J'aimerais vous entendre sur ce point, c'est-à-dire précisément peut-être le rapport que Castoriadis a entretenu avec l'école de Francfort, qui est dans les écrits en fait quasi inexistant, cette discussion, et plus largement, évidemment, si les souvenirs ne vous reviennent pas sur ce point, peut-être les discussions théoriques, des souvenirs de conversations marquantes avec Castoriadis là-dessus. Voilà, merci.
Ça me rappelle, Oui, je suis aussi germaniste, j'ai aussi Il y avait, dans ce qu'on appelait les nouvelles gauches, fin des années 60, etc., il y en avait une allemande aussi. J'y suis allé, j'ai participé, et une expérience est parlante, je crois. J'ai fait une conférence donc à Starnberg, l'institut où Habermas régnait comme maître, et j'ai fait la conférence sur Castoriadis. C'était pas la Blitz des Gedankens, comme dit Marx. Mais après, on quitte dans les séminaires de Habermas. On va toujours prendre une bière et on allait pour la bière et je suis à côté de lui. Et il me dit, c'est très intéressant, mais il dit, Dick, du musst verstehen, dass wir Deutschen dürfen sowas nicht sagen. Il faut que tu comprennes que nous Allemands, nous ne dürfen pas, on ne peut pas, on ne peut pas se permettre de dire ces choses-là. Et c'est là, effectivement, c'est la thèse qu'ensuite Habermas va soutenir dans ses conférences à la Sorbonne, comme c'était l'histoire de la modernité. Et donc, mais par la suite, par la médiation de Telos, de nouveau, parce que tout le monde voulait venir à New York. Et donc, on pouvait inviter beaucoup. C'était aussi à cette époque où il n'y avait pas beaucoup d'argent et il y avait de la place. Et du coup, Brigitte et moi-même invités des gens à faire un colloque, etc. Et donc, ils étaient payés un peu par l'université. Et ils venaient, la conférence était vendredi. Vendredi matin, je préparais, pour la bouffe. Après, tout le monde revenait chez nous et c'était... ça a donné lieu à des choses assez marrantes, mais qu'on peut laisser tomber. Mais cette idée de l'hospitalité a joué un grand rôle dans les échanges. Et j'avais une autre chose que j'allais raconter. Mais...
Sur le lien qu'Habermas...
Ils sont devenus très amis. Ils sont tous les deux des honnêtes hommes, comme on dirait. il y avait toujours des choses qui crochaient, mais les Allemands arrivaient à accepter ça, même entre eux. Habermas et son meilleur ami. Apple pouvait se chicaner comme les poules au poulailler, mais il y avait quelque chose là qui tenait. Mais j'avais autre chose, mais bon, on ne peut pas tout imposer.
Est-ce que, pour une dernière question, peut-être le public venu en nombre, si vous voulez poser une question avant de clôturer cette soirée, j'en ai une dernière, mais est-ce que un ou une volontaire, pas spécialement ? Je transmets juste le micro, comme ça va être.
C'est juste un troisième essai pour essayer de comprendre la raison de cette hostilité de gaucher, en fait. La raison intellectuelle ou politique ou personnelle de cette hostilité manifeste de gaucher. Elle doit bien avoir une raison.
Vous parlez comme Habermas. Vous parlez exactement comme Habermas. Il n'y a pas l'incompréhensible. Il n'y a pas... Non, mais... Et si celui qui a la chair d'Habermas actuellement... Pardon. Celui qui a la chair d'Habermas actuellement, Rainer Forst, construit toute sa pensée sur l'idée de Rechtfertigung, de justification. Il faut absolument qu'on puisse justifier. Et c'est fort joli, mais il vient de publier un Festschrift pour Rainer qui fait 600 pages. Qui est là sur mes rayons et qui me sourit des fois. C'est tout. Voilà.
Donc, il ne faut pas chercher, en fait, c'est ça. Il faut garder l'énigme. C'est ça l'idée.
Oui. C'est-à-dire qu'il garde la place pour l'imagination. C'est ça.
C'est bien comme dernière phrase, non ?
Garder la place pour l'imagination.
Et pour compléter, mais sans évidemment fermer le sujet, je dois dire que pour avoir assisté 10 ans au séminaire de Marcel Gaucher à l'École des hautes études, à chaque fois que quelqu'un lui posait une question sur Castoriadis ou ses rapports à Castoriadis, Marcel Gaucher a toujours fait preuve d'une réponse absolument digne, etc., en disant « j'ai énormément d'admiration pour ce grand penseur qui a influencé énormément ma pensée ». Et donc, je n'ai jamais entendu Marcel Gaucher dire une quelconque chose négative à l'égard de Castoriadis durant ses 10 ans de séminaire public à l'École des hautes études.
J'en suis très content.
Non, c'était pour dire qu'il y a des épisodes dans l'existence, sans doute, où les gens sont en conflit et d'autres où ils savent reconnaître sans doute le plus important, le plus essentiel. Et puis, à d'autres niveaux, il y a des niveaux personnels, des niveaux intellectuels, etc., sans doute.
Si on veut les polémiques entre ces gens-là, c'est Abin Sur qui attaque et Marcel, j'ai jamais vu de réponse. Mais Abin Sur.
En général.
Oui.
Les historiens pourront en parler parce que Quentin et moi avons retrouvé dans les archives quelques lettres de Marcel Gaucher à Cornelius Castoriadis qui évoquent certains épisodes, notamment de disputes avec Claude Lefort, quand ils se retrouvaient à trois lors d'un repas, etc. Et ensuite, des lettres qui expliquaient que, après tout, les polémiques étaient normales entre intellectuels et que les désaccords étaient féconds et qu'il fallait aussi savoir enterrer l'âge de guerre pour repartir sur de nouvelles bases. Alors nous espérons qu'avec les nouveaux Castoriadis, on aura des discussions à la fois aussi enflammées, aussi virulentes, mais aussi la capacité de surmonter les désaccords et de travailler ensemble.
En fait, si on allait... élargir un peu quand même le cercle, c'est André Gortz qui maîtrisait les deux côtés, mais qui ne voulait pas, une fois qu'il a quitté l'Obs, le nouvel Obs, quand il s'était retiré à la campagne, il écrivait. Et quand il écrivait sur ses affaires françaises, c'était toujours en allemand. Tandis que tout le temps qu'il était journaliste ici, il n'a pas parlé un mot de allemand.
Eh bien, merci beaucoup. Et de toute façon, pour celles et ceux qui voudraient avoir le fin mot, tous les fonds sont disponibles au moins en partie à l'IMEC. Donc vous pourrez vous faire une idée précise entre le fonds Castoriadis, André Gortz, Abin Sur aussi, Marcel Gaucher qui est en train d'être déposé. Donc une mine à travailler. Et à publier dans les nouveaux Castoriadis, bien évidemment. On va s'arrêter ici, sauf si quelqu'un veut s'élever et prendre le micro une dernière fois.
Sinon, on va pouvoir clôturer cette soirée. En tout cas, encore merci à Entrevue. Et merci à vous d'avoir accepté toutes et tous.